RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec autour de la table aujourd'hui Antoine Dierz, le consultant, Bruno Poncet, le cheminot, et Barbara Lefebvre, la prof d'histoire géo. Je vous donne le menu jusqu'à midi. On va parler d'une idée, c'est une étude qu'en tout cas qui la met sur la table, permettre la conduite accompagnée dès 14 ans. Est-ce que c'est raisonnable à 14 ans? Est-ce qu'on peut commencer à apprendre à conduire? Appelez-nous au 3216 pour intervenir. Pour garantir la sérénité de la Baule, station balnéaire chic et connue de la côte atlantique, eh bien le maire de la Baule ne veut pas de billets TER à bas prix vers sa ville, car ça attire une population qui ne veut plus sur les plages. Ça a créé des problèmes de sécurité. Le maire de la Baule sera avec nous dans les grandes gueules pour s'expliquer. Franck Louvrier par téléphone. Mais avant cela, on va revenir sur un triste anniversaire. On commémore aujourd'hui les 10 ans de l'attentat de Nice. 86 morts, 400 blessés. C'était un 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Une cérémonie est organisée tout à l'heure, présidée par le chef de l'État. Mais 10 ans après, la procédure concernant les failles de la sécurité ce jour-là n'est toujours pas terminée. Il n'y a toujours pas eu de procès. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours depuis 10 ans. Certaines victimes disent que c'est pas possible et que c'est une façon de maltraiter les victimes, de ne pas considérer à leur juste place les familles des victimes. Qu'en pensez-vous? Le 32-16 pour intervenir, on en discute ensemble. Effectivement, les victimes et les avocats et leurs avocats déplorent le marasme dans lequel se trouve cette procédure judiciaire qui doit déterminer les responsabilités, les éventuels manquements à la protection des spectateurs du feu d'artifice ce 14 juillet 2016. La sécurisation de la promenade des Anglais, comment se fait-il qu'un homme seul a pu ainsi, avec un camion, passer les contrôles de sécurité et se retrouver sur cette promenade des Anglais dans une ville très sécurisée, Nice, avec des caméras de vidéosurveillance un peu partout. On n'a pas su non plus s'apercevoir que l'homme avait fait des repérages. Donc il y a beaucoup de questions sans réponse. Et les Niçois, en tout cas certains d'entre eux, ont l'impression d'être un peu oubliés parce que c'est Nice, c'est pas Paris. Alors heureusement, ce soir, avant le coup d'envoi du match France-Espagne, il y aura une minute de silence. D'ailleurs, c'était une demande faite par le maire Éric Ciotti et la FIFA, appuyée par le président Macron, et la FIFA a accepté donc d'accorder cette minute de silence avant le début de la rencontre. Est-ce que vous avez l'impression effectivement que Nice passe en second par rapport à d'autres attentats qui ont ensanglanté la France et qu'on n'ait pas été au bout de toutes ces questions qu'on se pose sur le dispositif de sécurité ce jour-là?
On le disait tout à l'heure, on doit trouver des responsabilités dans notre pays. On doit assumer ses responsabilités, assumer ses actes. Eh bien, il y avait bien des gens chargés d'assurer le fait que le périmètre soit infranchissable, avec les dispositifs anti-béliers, tout ce qu'on voit à chaque fois qu'il y a un événement aujourd'hui dans notre pays. Eh bien, le dispositif n'était pas infranchissable. Ce camion a pu passer. Donc, qui était responsable de ça? C'est le préfet? C'est le maire, j'en sais rien, mais il n'y a pas besoin de 10 ans pour que la justice puisse dire qui était responsable. Ensuite, il y a une responsabilité du dispositif policier. Alors, on l'avait dit quand on a évoqué les attentats du Bataclan, ils n'étaient pas équipés, pas formés, etc.
De Paris, l'attentat de Paris. Antoine, oui. L'attentat de Paris.
De Paris, oui. Ok. Là, il y a aussi une faille absolue qu'on a encore dans nos dispositifs, c'est que nos forces de l'ordre ne disposent pas de munitions antimatérielles. C'est-à-dire qu'on est avec du 9 mm, éventuellement une arme longue à peine plus puissante, mais nous ne disposons toujours pas d'armes longues, antimatérielles, pour arrêter un véhicule. Encore aujourd'hui.
Il existe une arme qui arrête un camion.
Évidemment. Mais on parle de munitions de cette taille à l'armée. Tu vois, des munitions antimatérielles. C'est pas du antipersonnel.
Mais tu les mets entre les mains de qui? Parce que c'est pas les policiers municipaux qui.
Je suis désolé, mais on a toujours cette faille. Il faut des unités spécialisées pour pouvoir arrêter un camion. Ça paraît dingue, mais les forces de l'ordre présentes sur la promenade des Anglais t'expliquent. J'étais avec mon 9 mm. Mon arme de poing, j'avais beau tirer dans la carrosserie, je ne pouvais rien faire. On n'est toujours pas équipé. Et donc, toute la chaîne montre que on n'a pas tiré, encore aujourd'hui, les leçons de cet échec. Eh ben, commençons par trouver les responsables et maintenant, mettons en place des éléments pour éviter ça.
10 ans de procédure, c'est ça qui est complètement soit la
parce qu'on veut pas les trouver. Pardon, mais ça va être ça va être extrêmement dur, ça va être malheureux, ça va retomber
sur on le dit.
Ça va retomber sur la municipalité, ça va retomber sur le préfet.
On dit qu'on n'a pas trouvé de responsabilité, mais attends, la procédure est toujours en cours, c'est-à-dire qu'on l'a pas clos. À un moment donné, il faut.
Et n'oublions pas dire stop l'équipement antimatériel parce que ça va se produire.
Non, mais là aussi, évidemment, le procès des proches du terroriste. Il a eu lieu dans les délais, relativement corrects, on va dire. Mais effectivement, on peut s'interroger en France, ailleurs, etc. Enfin, je veux dire, il y a bien d'autres situations aussi où on attend des commissions d'enquête, où on attend de creuser vraiment les responsabilités, etc. Parce que le coupable, on le connaît, c'est l'idéologie islamiste, c'est ce terroriste. Mais il y a effectivement des failles dans la sécurité. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas aussi le rôle du garde des Sceaux de demander à la justice pourquoi elle est silente, pourquoi le juge d'instruction. Alors, je sais, ça n'a rien à voir, mais comme je sais qu'on peut mettre 4 juges d'instruction sur Patrick Bruel, je ne sais pas combien on a mis de juges d'instruction sur ce sujet-là. Voilà, je pense. Alors, Patrick Bruel, c'est très grave. Un juge d'instruction, à mon avis, aurait suffi. Par contre, peut-être que là, sur cette affaire des failles de sécurité, l'on aurait fallu 4 à Nice.
Bah surtout, il faut aller
et peut-être
plus
qu'il
vite.
Y en a un demi, parce que lui-même, il est occupé avec 500 autres dossiers ailleurs. Donc, on voit bien, encore une fois, ici.
Bah surtout,
moi, je ne mets pas la faute sur les juges et le juge d'instruction, en l'occurrence. Hein. Mais à mon avis, encore un qui doit être débordé. Mais là aussi, pourquoi certains sujets... Pourquoi certains thèmes ou pourquoi certaines personnes bénéficient entre guillemets, je vais mettre beaucoup de guillemets pour
pas toujours bénéficier,
voilà, d'un acharnement judiciaire parfois ou d'une concentration de tous les efforts de la justice et que dans d'autres sujets, notamment la protection de l'enfance, notamment la protection des personnes âgées, sans parler de la protection animale.
10 ans.
Alors là, il y a personne. Les bureaux sont vides.
Y a la lenteur, mais surtout l'efficacité d'une procédure. Parce que 10 ans, c'est-à-dire que plus ça va, plus les témoignages seront moins précis. C'est-à-dire que 10 ans après, avoir des témoignages 10 ans après précis de ceux qui étaient sur place pour raconter.
Tout a été déjà collecté par le juge d'instruction. Ce qu'il faudrait voir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de lenteur. Ça, c'est le garde des Sceaux qui peut répondre.
Bruno,
je vais commencer par une pensée à mon copain Amine, avec qui je vais des fois dans des lycées et qui a évité le camion de très peu et qui s'est retrouvé gravement blessé après. Tout d'abord, je voudrais vous dire ce que c'est que l'attentat de Nice, parce que beaucoup de gens ont oublié, mais c'était un attentat où il y avait beaucoup de familles. Et des enfants ont été écrasés, des enfants ont été tués par ce camion. Et en fait, quand nous, on a eu une surmédiatisation pendant notre procès, on a eu le droit à tout le monde et tout. Derrière l'attentat de Nice, ça a été un peu occulté, parce que peut-être c'était plus le moment de parler de ça, parce que peut-être les gens en avaient déjà marre après un an de procès des attentats de Paris. Mais ce procès, alors moi je l'ai pas voulu le suivre, parce que c'est déjà assez dur déjà d'en suivre un, mais pour avoir des amis qui l'ont suivi, c'est un procès qui a été d'une violence sans nom, parce qu'en fait c'est des enfants. Quand je vous dis des enfants, il y a des bébés qui ont été tués ce jour-là, et en fait tu te retrouves aujourd'hui avec des gens qui ont 10 ans de plus, qui sont meurtris à vie, mais qui peuvent pas témoigner de ce qu'ils ont vécu, parce qu'à l'époque, ils étaient tout petits. Et quand ils te disent, et tu l'entends régulièrement, ils te disent, on est oublié, parce qu'en fait, le procès est passé, ce procès des terroristes et des gens qui l'ont aidé. Mais après, t'as tout le procès de comment, dans une ville aussi surveillée, c'est une ville avec des caméras partout, une ville aussi surveillée, tu te retrouves à avoir un attentat avec quelqu'un qui a fait des repérages plusieurs jours avec un camion, même si c'était subi. N'oublions jamais que ce monsieur a soi-disant donné allégeance à Daesh, je crois la veille, et que ça fait 4-5 jours qu'il était en train de vriller dans ce truc-là, en fait, malgré qu'il ait des armes à côté de lui sur son siège. En fait, je trouve que tout ce qui se passe là, c'est prévisible depuis 10 ans, et puis Moi, je voudrais juste vous dire, moi, j'étais au Bataclan avec des gens qui étaient plus ou moins de ma catégorie sociale professionnelle, avec des gens qui étaient plus ou moins, on va dire, des bobos, je ne sais quoi. On a le droit à des très bons avocats, on a le droit à une justice rapide, efficace, on a le droit à des gens qui sont venus intervenir, Moliens et compagnie. Aujourd'hui, là, on est en face de gens de catégorie sociale certainement beaucoup plus.
C'est ce que dit riche. Alain Darist.
Non, mais
c'est
ah ce bien, justement. Dire... Non, mais... Il est avec nous en ligne. Je voudrais qu'on donne la parole.
Le grand-père de Léana.
Alors, et justement, Alain Darist est avec nous. Alain Darist, bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin dans Les Grandes Gueules. C'est une journée, j'imagine, pas simple à vivre pour vous. Je rappelle que vous êtes le grand-père de Léana. Et Léana, c'est la plus jeune victime de l'attentat de Nice. Léana avait 2 ans et demi. Ce jour-là. Vous avez depuis créé une fondation, une association qui s'appelle Promenade des Anges. C'est vrai qu'on est un peu estomaqué d'apprendre que 10 ans après, il y a toujours cette procédure en cours pour essayer de comprendre les failles de sécurité. Pourquoi c'est si lent ?
Ben, pourquoi c'est si lent ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Hein. On ne comprend pas et pour nous, c'est une grande souffrance. Ça a commencé, le dossier était sur Nice. Nous, à l'époque, on avait demandé de le faire déplacer à Marseille. Ça nous a été refusé à l'époque. Le premier juge, il est resté 1 an, il est parti, il s'était remplacé par une autre juge. Après, on a appris plus tard que le premier juge, finalement, il faisait campagne avec M. Estrosi, donc ça nous a choqués. On se dit, tiens, il y a peut-être un ralentissement, il y a peut-être eu quelque chose qui gênait sur Nice. Et le fait qu'il soit déplacé à Marseille, ça nous a donné un petit coup de bien au moral. On s'est dit, bon, ça va avancer. À Marseille, ils sont peut-être en dehors de Nice, donc ils vont taper sec, ils vont taper dans le gras, quoi.
Qu'est-ce que vous voulez savoir, en fait, Alain ?
Nous,
quelles sont vos questions sans réponse ?
Alors, les questions sans réponse, c'est qu'est-ce qui s'est passé ce soir au niveau de la sécurité par rapport à l'euro qu'il y avait une semaine avant ? Oui, comment ça se fait qu'il n'y ait pas autant de policiers qu'il a été dit par le gouvernement, qu'ils ont essayé de mentir sur les chiffres ? Donc nous, on veut la vérité exacte. On veut savoir qui a été responsable, si c'est la mairie, si c'est l'État, si c'est les deux. Et nous, ce qu'on veut, on ne leur demande pas d'aller en prison ou quoi que ce soit. On veut qu'ils reconnaissent les faits, qu'ils nous disent « Oui, c'est nous, c'est moi qui suis coupable, c'est ma faute, je le reconnais, je m'en excuse. » Et qu'on arrive à avoir une réponse. Parce que on est toujours en attente et c'est vraiment, au bout de 10 ans, c'est vraiment insupportable. Nous, on est entre nous, là, on n'en peut plus. Hein. On essaie de pêcher des informations.
Alors, je vous entends et moi, pour avoir assisté au procès des attentats de Paris, moi, je me suis toujours, j'ai toujours encore choqué aujourd'hui, c'est que évidemment, on a jugé des gens qui étaient là et qui ont participé. Il y en avait qu'un qui a participé. Tous les autres étaient là de loin. Par contre, il n'y a jamais eu le procès de l'État. Or, aujourd'hui, moi, je suis convaincu encore aujourd'hui que ça commence avec la déstabilisation de la Libye pour arriver après ensuite à ce que nous on a vécu en 2015 et vous en 2016 et malheureusement derrière. Et je pense que l'État était responsable. Et nous, et moi, je l'avais dit quand j'ai témoigné au tribunal, j'avais dit, moi, j'aimerais bien que dans ce procès, il y ait dans le box des accusés et Sarkozy et des membres de l'État qui aujourd'hui ne sont autant responsables qu'un Salah Abdeslam en fait. Et ça, on l'a jamais eu procès de l'État. On l'a jamais eu.
Ils sont pas autant responsables.
Ça, je peux pas l'entendre.
Il a raison. À tous les niveaux, ils sont responsables.
Oui, mais on peut pas dire autant.
D'accord, mais excusez-moi.
Attends, hiérarchie quand même.
Les gars qui ont été projetés depuis la Syrie. Ça n'a rien à voir. La guerre en Syrie, elle a été déclenchée. C'est Bachar el-Assad, c'est toute la région qui s'est embrasée avec l'État islamique. L'État islamique a projeté des terroristes et la France a répondu à la projection de terroristes sur son sol. Je vois pas en quoi ni Sarkozy ni Hollande sont responsables de ça. Et c'est pas le renversement de Kadhafi qui a créé l'hydre islamiste. Va plutôt voir au Qatar. Va plutôt voir les émirs du Qatar qui sont les grands copains. De Sarkozy, d'Hollande et de Macron, va plutôt voir le Qatar. C'est plutôt chez le Qatar que tu devrais aller chercher les commanditaires que d'aller t'en prendre à Sarkozy et Hollande.
Alain Darist, on va laisser Sarkozy et Hollande de côté. Mais moi, j'ai l'impression aussi que chez certaines familles de victimes, il y a un manque de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des attentats de Paris. L'attentat de Nice, bien sûr, on en a parlé. Mais c'est resté un drame régional. C'est pas devenu un drame national. Est-ce qu'il y a ce sentiment aussi ?
Ça fait 10 ans qu'on le ressent. La première année, oui, il y avait tout le monde qui est descendu de Paris pour la première année. Mais après, les autres années, on a été oubliés complètement. D'ailleurs, on le voit tous les jours hein, quand il y a des émissions sur le terrorisme ou quoi que ce soit, ou quand on aborde le sujet, on parle toujours de Paris, on ne parle jamais de Nice. Et même pour les préparatifs des festivités du 14 juillet, il n'y a jamais un mot sur... oui, mais il ne faut pas oublier que le 14 juillet, il y a eu un attentat à Nice... Même si
ce soir, Ce soir, il y a cette minute de silence qui sera respectée avant le début de la rencontre France-Espagne. C'est une bonne chose ?
Ah ben ça, pour dire la vérité, ça nous a étonnés déjà. Et puis par contre, ça nous fait très plaisir que là, le monde entier pourra avoir les yeux sur Nice pendant un petit moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains ont été touchés, les Espagnols ont été touchés, oui. La France est touchée. Il y a eu 19 nations qui ont été touchées à Nice.
Bien sûr.
Et beaucoup de familles et 15 enfants. Donc c'est un attentat qu'il ne faut pas laisser sous silence. Tous les ans, quand Paris prépare le 14 juillet, ils doivent faire un petit mot sur Nice. Oui, n'oublions pas Nice, pour Nice, c'est un drame national.
Mais aujourd'hui, il y aura une cérémonie tout à l'heure qui sera présidée par le président Macron.
Oui, et alors justement, il y a M. Macron qui descend, mais il descend avec toute une flottille de ses amis et ses camarades qui nous mangent la moitié de notre tribune. Donc il a fallu que nous, victimes, on se batte pour avoir nos places en tribune, pour pas être effacés par rapport
et
aux...
Et surtout,
aux
lui, il a 15 minutes de discours et vous avez 3 minutes.
Voilà.
Alors, non, mais moi, là, j'ai connu ça aux commémorations du 13 novembre cette année. D'ailleurs, j'avais dit à Olivier à la télé, parce que j'avais préféré ne pas y aller plutôt que dans ce truc-là, où en fait, nous, les victimes, on était debout. Moi, j'ai mes amis et ma compagne qui a été, et en fait si on les avait pas placés au dernier moment, ils étaient debout alors qu'il y avait des gens qui étaient là-dedans, on sait même pas qui c'était. En fait, c'est dingue. Moi, ça m'a rendu fou. Moi, pendant les commémorations, moi, devant le Bataclan, j'étais à côté des toilettes, j'étais à côté des chiottes. Moi, je suis désolé, nous les victimes, on était à côté des chiottes.
Mais nous, on a discuté pendant les préparatifs, on leur a bien dit, nous, tous ceux qui viennent de Paris, tous les cols blancs, on veut pas qu'ils nous prennent notre place.
Exactement.
On veut que ce soit à la limite, c'est eux qui soient derrière et nous devant.
Je voudrais profiter de votre présence et d'évoquer l'attentat de Nice pour rappeler aussi qu'on fête les 10 ans, c'est aussi les 10 ans de l'assassinat du père Hamel. C'était le 26 juillet 2016. Saint-Étienne du Rouvray, parce qu'un prêtre égorgé, ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps, en France. Ça s'est passé 12 jours après le 14 juillet. Le père Hamel, il faut aussi avoir une pensée pour lui
il fait partie de ceux qui sont oubliés aussi. Comme les deux adolescents de Marseille et puis tous les autres.
Exactement, de la gare Saint-Charles, tout à fait.
Bon courage à vous, Alain.
Merci Alain Daris. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous. Merci et bon courage à vous pour cette journée bien sûr si particulière pour vous, pour les Niçois et pour tous ceux qui ont vécu dans leur chair ce drame et cet attentat sur la promenade des Anglais, c'était il y a 10 ans. Merci à vous. Dans un instant, on va partir à La Baule. Alors on change de coin, de côte, on va sur la Loire-Atlantique. La Baule, a priori, c'est une station balnéaire tranquille, mais visiblement, il y a des fêtes délinquance de plus en plus le week-end, pendant les vacances. Il y a des jeunes qui arrivent, qui n'habitent pas La Baule, qui viennent peut-être de Nantes ou d'ailleurs, et qui sèment la pagaille. Et le maire de La Baule, il en a marre, donc il ne veut pas que les billets TER soient vendus trop à bas prix, parce que ça va venir une population qu'il n'a pas envie d'avoir. Alors est-ce qu'il est en train de faire de la discrimination, discrimination sociale même? On va en parler avec lui, parce qu'il sera avec nous, le Franck Louvrier, le maire de La Baule. À tout de suite sur RMC, RMC Story, avec vos grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Vous êtes en direct, nous sommes en direct, tout le monde est en direct, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. On attend le match avec impatience, surtout avec Bruno Poncet. Barbara un peu moins, France-Espagne
Barbara,
ce soir,
à
vivre sur RMC, radio partenaire à la Coupe du Monde. Une grande journée pour la France, on l'espère. Qualification en finale et derrière la troisième étoile.
Le 14 juillet,
Il faut gagner. C'est la première fois que les Bleus.
Et après les troisième étoile, c'est le
jour
chamois
de la fête
d'or.
Nationale. Donc c'est un signe.
Après les troisième étoile, c'est chamois d'or.
Voilà, merci Barbara. Je vous propose de partir à La Baule. Pourquoi ? Parce qu'à La Baule, le maire, Franck Louvrier, visiblement en a marre de l'indélinquance. Il y a eu notamment une rixe géante lors du week-end de la Pentecôte. Ça fait venir une population qu'il n'a pas envie de voir sur les plages tranquilles de La Baule. Et donc, il voudrait que les billets de train à tarif réduit pour se rendre à La Baule, ça s'arrête. Parce que ça fait venir une population qu'il n'a pas envie de voir. Alors, est-ce que c'est la discrimination sociale ? Je vous propose, mes chers grandes gueules, Antoine Diaz, Barbara Lefebvre et Bruno Poncet, de tout de suite donner la parole au maire de La Baule, Franck Louvrier, qui va s'expliquer dans les grandes gueules. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, vous voulez pas des jeunes chez vous ?
Non, pas du tout. Et je suis pour les tarifs, bien évidemment, réduits pour la famille, etc. Non, le seul débat qui a été installé à la suite d'une rixe, pas de plusieurs, et pas d'une augmentation de la délinquance, qui est une baisse de la délinquance sur la ville. Mais à la suite d'une rixe, si vous voulez, les insoumis et les écologistes ont souhaité un droit à la fraîcheur, c'est-à-dire de pouvoir donner des billets quasiment gratuitement à l'ensemble d'une de la population. Et ce qui nous avons opposé, bien évidemment, le droit à la sérénité, pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes des villes qui passent de 18 000 à 180 000 habitants en quelques heures. Et que si on augmente encore plus le nombre de populations, on se retrouve dans des difficultés à gérer, bien sûr, les sujets de sécurité, les sujets de circulation, les sujets de propreté. Donc, je suis contre le surtourisme. Et c'est étonnant de la part des écologistes qui veulent du surtourisme. Nous, on veut pas de surtourisme. On veut maîtriser.
Mais ils viennent d'où, ces jeunes-là, qui parfois perturbent? Ils viennent de Nantes, de Saint-Nazaire?
Vous savez, on a deux communes importantes, non loin d'ici. Donc, mais c'est surtout, c'est que, on ne peut pas maîtriser, si vous voulez, une augmentation si forte de la population. Vous imaginez 18 000 à 180 000 habitants.
De jeunes.
Donc, si on augmente encore plus, on risque d'avoir des situations compliquées.
Mais, pardon, je me permets, mais monsieur le maire, on peut mettre les pieds dans le plat. Moi, je suis dunkerquois, on a une plage à Malo-les-Bains, il y a le même genre d'opération avec les tickets de TER pas très chers. Et nous, à Dunkerque, on dit c'est les RTL qui vont débarquer, les Roubaix-Tourcoing-Lille. On sait tous ce que ça veut dire. C'est des jeunes issus de banlieue qui vont mettre le Bronx à la plage et on a tous envie que ça n'arrive pas chez nous. Donc, je comprends bien que dans votre position, vous puissiez pas le dire comme je le dis, mais en réalité, ce serait d'autres types de jeunes très calmes, très posés, très gentils, ça vous poserait pas de difficulté. Là, il faut bien le dire, c'est la difficulté de ces jeunes que moi j'appelle des racailles, qui se battent comme ça sur votre jolie digue.
Bah, vous savez, c'est assez simple, les Dunkerquois font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Je décide de ce que j'ai à faire sur ma commune, j'en suis le maire. Donc,
c'est bien ce que je vous dis.
Autre, bah, c'est exactement ce qu'on vient de vous dire.
Le transport qui est mené sur la commune, accessoirement sur la région des Pays de la Loire, dont je suis vice-président, c'est moi qui la gère. Donc c'était nous de prendre des décisions. Moi, je ne reproche pas, et au contraire, aux Iliens d'avoir une autre stratégie, que ce soit les habitants de l'Île-Dieu ou les Corses, que j'aime beaucoup, et ils ont une autre stratégie en termes de transport, parce qu'ils sont dans des situations particulières. Nous, on a une situation compliquée, parce que je ne pense pas que Dunkerque passe de 18 000 à 180 000 habitants en quelques heures, notamment l'été. Donc
on
voilà,
est déjà 180 000.
Chacun a des stratégies différentes, et c'est normal. C'est chaque commune.
Mais Franck, vous voyez, en fait, il y a eu des images qui ont tourné, qui ont pas mal tourné sur les réseaux sociaux. On voyait effectivement des jeunes qui une cohue hein, de jeunes hommes qui sont venus de Nantes, s'engouffrant dans une rame de train et venant ensuite se battre sur la plage de la Baule. Le problème, ce ne sont pas les jeunes sur le quai. On dit notamment les responsables insoumis ou écologistes. C'est le manque de trains. S'il y avait plus de trains, ça se passerait mieux. Si on voilà.
C'est-à-dire
qu'en gros, ce que je comprends dans ce que vous dites et ce que vous reportez, c'est-à-dire qu'il faut encore plus de trains pour qu'il y ait plus de surtourisme, pour qu'il y ait encore plus de monde et que ce soit encore plus difficile à gérer. C'est assez original de la part d'écologistes qui souhaitent une forme de sérénité dans notre pays.
Oui, mais quand il fait chaud, on peut. Oui, mais quand il fait très chaud, comme c'est le cas en ce moment, on peut comprendre des jeunes qui habitent à Nantes ou à Saint-Nazaire qui, voilà, la plage, elle appartient à tout le monde, elle est publique.
Mais bien sûr.
Et la mer appartient à tout le monde.
J'ai aucun doute. J'ai aucun doute. La seule chose, c'est qu'accentuer l'immigration touristique avec des tarifs à bas prix, ce n'est qu'amplifier les problèmes. Donc voilà, donc chacun fait comme il l'entend. Ceux qui veulent monter dans un train, ils peuvent monter dans un train. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut accentuer l'augmentation du nombre de touristes sur nos littoraux. Parce que sinon, on va se retrouver dans des villes qu'on ne pourra plus gérer. Parce que quand vous avez une multiplication de la population par 10, bah vous imaginez, il faut des agents pour ramasser, bien sûr, les déchets de ces personnes. Il faut aussi de la sécurité supplémentaire. Vous avez des embouteillages dans certaines communes qui n'ont pas la capacité d'absorber beaucoup de circulation. Donc voilà, donc c'est irresponsable de la part des insoumis et des écologistes de pouvoir accentuer.
Mais vous, de votre côté, est-ce que c'est pas un peu discriminatoire?
Ben non, c'est pas discriminatoire. Vous pouvez prendre le train comme vous le souhaitez, mais vous payez le billet comme vous le souhaitez. Et si vous avez un forfait famille, ben vous aurez un forfait famille. Mais c'est pas pour ça.
C'est surtout qu'à la Baule, on veut être tranquille. On vient à la Baule pour être tranquille.
Mais on vient à la Baule comme on vient dans d'autres communes pour être tranquille. C'est pas le sujet, ça, l'ordre public, c'est à nous de le faire respecter. Et on le fait respecter. Mais à un moment donné, si vous voulez, on se retrouve dans des situations.
Alors on a envie d'être tranquille partout.
Il y a tout le monde.
C'est Bruno tout le monde qui se rencontre.
Excusez-moi, c'est quel. Enfin, en fait, les billets de train, TER, c'est la région qui met les tarifs, c'est pas les écolos ou les insoumis. J'ai pas vu que la région était écolo-insoumis, moi.
Non, vous avez raison, mais c'est un débat qui a eu lieu à la région,
au conseil régional,
le prix des TER sur les littoraux. Donc c'est ce débat-là qui a initié le débat d'aujourd'hui.
Ok, après, moi j'entends ce que vous dites.
Après, le problème, vous n'allez pas empêcher dans les prochaines années que les gens des villes, des grandes villes autour de chez vous, viennent chez vous. Parce que moi, je connais un peu votre ville. Il y a des plages énormes. Les gens se disent, c'est là-bas, au moins, j'aurai moins chaud que dans mon...
C'est la plus grande plage fermée d'Europe. Ouais. Hein.
Bon, alors, je vais vous dire une chose, c'est que être à 14h ou à 16h sur la plage, en plein cagnard, comme ça se passe en ce moment, c'est pas non plus très prudent.
Oui, mais c'est peut-être mieux que d'être dans son appartement, il fait 40.
Sur la plage. Donc, c'est pas très prudent. Il faut mieux se mettre à l'ombre sous les arbres que plutôt sur la plage en plein soleil.
Mais après, je suis surpris quand même sur votre discours sur le surtourisme, parce qu'en fait, à un moment donné, le surtourisme, c'est quand même des gens qui consomment aussi dans votre ville. Donc, vos commerçants sont certainement pas tous déçus que des gens arrivent chez vous. Moi, je sais pas, moi, j'étais longtemps en vacances à l'île de Léron, où la proportion de x10, elle est.
Il y a du surtourisme aussi.
Ouais, il y a du surtourisme sûrement, mais c'était plus que du x10, c'est peut-être du x100.
Il y a régulé aussi.
Du x1000, mais en fait, tout le monde était content de voir des gens arriver l'été, parce que c'est ça qui faisait leur
business. Ça gâche aussi les...
On est content de voir des gens arriver l'été, mais à un moment donné, on peut saturer, parce que vous êtes dans des situations où vous avez trop de monde. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas accentuer ces passages aussi importants, parce que x10, vous dites oui, x10 ou x1000, mais nous on est déjà 18 000, donc on passe 180 000. Donc là, il n'y a pas beaucoup de communes qui passent de 18 000 à 180 000.
Non, c'est énorme.
Mais attendez-vous, moi perso, ce que je vois malheureusement dans les prochaines années, c'est que la plupart des gens tentent d'aller au bord de l'eau, donc il va falloir développer peut-être des transports pour étaler les gens sur tout le littoral de l'Ouest, qui sera certainement un peu moins chaud. Mais
le problème du surtourisme ne touche pas que la Baule.
Mais on est d'accord, mais étalons peut-être surtout là, parce qu'on voit que les gens à la Baule, à Pornic, au Croisic, c'est à un moment donné. Mais malheureusement, je pense que vous êtes là, vous êtes face au début de ce qui va se passer, des migrations comme ça, passagères, pour aller au bord de la mer.
Ça dépend aussi comment les gens se comportent. C'est-à-dire que tu peux très bien aller au bord de la mer, t'es pas obligé de mal te comporter. C'est pas obligé d'être le défouloir. J'ai l'impression que c'est un peu, on va à la Baule et là, ça y est, on se lâche, quoi.
Mais moi, je sais pas, mais.
À la Baule, on a vu des échauffourées aussi à Deauville. On a vu aussi des rixes à Deauville.
On n'est pas obligé de bien se comporter. Merci Franck Louvrier d'avoir été avec nous quelques minutes, le maire de la Baule. Merci. Antoine aussi est avec nous. Antoine de Saint-Nazaire. Est-ce que vous allez à la Baule, Antoine, j'imagine, quand on est de Saint-Nazaire?
Oui, bonjour. Oui, ça m'arrive, oui, bien sûr, d'aller à la Baule, oui.
Est-ce qu'il a raison, Franck Louvrier, de dire stop?
Pour le coup, j'ai envie de dire, il a eu une mauvaise expérience. Bon, quand il réagit à cette mauvaise expérience. Mais on a bien vu effectivement que la dernière fois que ça s'est passé, il y a des je vais pas pour stigmatiser le quartier, on va dire des gens de délinquances diverses et variées, des gangs, des groupes qui sont rivaux, qui sont croisés, qui sont foutus sur la gueule, pardonnez-moi pour l'expression, mais donc voilà. Donc
oui, ça la fout mal de voir des bagarres sur la plage, effectivement.
À la base, comme l'a dit un peu tout le monde, on vient à la Baule pour être tranquille, pour se détendre.
Pénaliser d'autres gens qui n'ont rien à voir avec cette rixe.
Mais en plus, excusez-moi, mais vous pénalisez les locaux. Moi, j'ai vu à Marseille des Marseillais qui ne viennent même plus dans certaines plages à Marseille, qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller à Cassis, à La Ciotat ou encore plus loin, parce que les plages de Marseille, certaines, c'est plus possible. C'est Rack Island.
Certaines sont payantes maintenant.
Il y en a même qui partent, qui font 5-6 bornes à l'extérieur de Marseille, alors que c'est des Marseillais et qui vous disent, moi ça fait 25 ans que je viens sur cette plage, là j'arrête, ça fait 2 ans que c'est plus tenable.
On va aboutir à quoi?
Apparemment c'est un phénomène global.
À la privatisation des plages. À un moment donné ça finira comme ça, on aura des plages qui seront uniquement privées.
On se demande bien comment ça se fait.
En période post-Covid, moi je me rappelle, c'était en 2021 je crois, où en post-Covid on avait commencé à rouvrir les restaurants, etc. Et moi je travaillais sur un restaurant de plage et tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, il y avait des dizaines et des dizaines de rassemblements de jeunes qui faisaient la fête, qui buvaient, qui fumaient, enfin qui faisaient un bronx pas possible, qui pour certains vandalisaient les restaurants de plage. Moi, je me rappelle, mon patron de l'époque était obligé de passer les nuits dans son restaurant pour éviter qu'il y ait du vandalisme, parce que avant qu'il le fasse, il y avait eu des vitrines pétées et puis son stock d'alcool a été dévalisé, quoi.
Antoine, vous dites les termes, comme diraient les jeunes, c'est une partie des jeunes, et moi je suis surpris que le maire Franck Louvrier ose pas dire
surtourisme,
dans une ville qui vote très largement Macron, on n'ose pas dire qu'il y a une partie de la population qui pose problème, et là tu l'as dit Olivier, on va sanctionner tout le monde pour une partie, et moi j'en ai marre de ça.
En fait là il vient de te le dire l'auditeur, c'est des jeunes qui boivent parce qu'ils voulaient braquer les réserves d'alcool.
Est-ce que c'est normal que tout le monde soit sanctionné juste à cause de quelque chose?
Alors, il y en a qui se tapent dessus, ils n'ont pas bu, ils sont juste surexcités de leur surexcitation. Tu te demandes pourquoi ils sont surexcités comme ça.
Calmer tous ces jeunes. Comment on les calme, tous ces jeunes?
Ah, mais moi, je peux les mettre au boulot.
À Cayenne. À Cayenne.
Non, pas à Cayenne, mais déjà à nettoyer. Il y a plein de trucs à faire.
Déjà, tu vas dans l'eau à la boule parce que.
Ça leur fait des petits boulots d'été.
L'eau à la boule est assez fraîche.
Moi, Olivier, maintenant, malheureusement.
Moi, avec les canicules, mais sinon, il fait 18. Moi, j'ai passé beaucoup d'été gamin à la boule, je connais très bien. Les clubs, j'allais dans les clubs des enfants, le club des dauphins, qui existe toujours d'ailleurs. Donc, je connais très bien cette station balnéaire. Et c'est vrai que l'eau était assez fraîche. Mais bon, maintenant, ça change. Oui. Mais bon, quand t'es gamin, tu te baignes même quand il fait 16 ou 17 degrés. Voilà. Merci, Antoine. Merci. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on a posé une question sur notre compte X? Oui, on a posé une question. Pour garantir la sérénité de la Baule, le maire ne veut pas de billets TER à bas prix vers sa ville. Est-ce que c'est choquant? Oui, clairement. Vous dites 30,7%. Oui, clairement. Non, pas du tout. 69,3%. Vous êtes du côté de Franck Louvrier. Dehors les jeunes.
Dehors les pauvres. Allez, les pauvres.
Dans un instant, mais tiens, puisqu'on parle des jeunes, est-ce que. On plaisante, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il faut abaisser la conduite, l'âge pour la conduite accompagnée à 14 ans? Est-ce qu'on peut apprendre à conduire dès 14 ans? Est-ce bien raisonnable? Une étude le préconise. Est-ce que vous êtes d'accord, mes chers grandes gueules? Et vous, au 32-16, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, Antoine Dierce, Barbara Lefebvre et Bruno Poncet. Faut-il apprendre à nos jeunes le plus tôt possible à conduire? Une étude préconise l'expérimentation de la conduite accompagnée dès l'âge de 14 ans. Cette étude tend à démontrer que plus on apprend tôt, mieux on sera un bon conducteur. La conduite accompagnée fonctionne. Et c'est vrai que depuis des années, il y a moins d'accidents chez les jeunes qui ont commencé par la conduite accompagnée ou qui ont attendu 18 ans pour apprendre à conduire. Alors, est-ce qu'il faut abaisser l'âge à 14 ans? Est-ce que c'est une bonne idée? Le 32-16 pour intervenir. Alors c'est vrai que depuis des années, on généralise ce dispositif de conduite accompagnée et selon les spécialistes, il a démontré son efficacité. Les candidats qui sont issus de cette conduite accompagnée réussissent l'examen pratique du permis dans 75% des cas contre 59% pour la filière classique et leur accidentalité, la première année de conduite autonome, recule de 20 à 30%, voire davantage à l'international lorsque le dispositif est complété par des restrictions, notamment interdiction de conduite la nuit, de transporter plus d'un passager, etc. Bah oui. Alors, est-ce que les adolescents sont suffisamment matures pour commencer à apprendre à conduire dès 14 ans? Qu'en pensez-vous, tiens, Barbara?
En sixième, on pourrait déjà. 14, 13.
Aujourd'hui, c'est 15 ans, la conduite accompagnée.
Ça a déjà été rabaissé.
Ouais. Déjà,
quelle est la différence entre 14 et 15 ans?
Quelle est la différence entre 14 et 15 ans? Alors, regardons à l'international. Alors, il y a deux pays où le permis de conduire est à 14 ans. C'est un, le Canada, dans certaines situations. Et certains États américains, pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise ces deux pays? La distance. Ouais. Donc, dans les États américains les plus ruraux, les très profondément ruraux, genre Iowa et compagnie, Dakota, etc., on peut un peu plus comprendre pourquoi on rabaissera encore plus à 14 ans, par exemple, l'âge de conduite, parce que il faut que les gamins ils se déplacent, y compris pour aller à high school, etc. Ouais. Donc voilà. Mmh. En France, où l'on a quand même, à part effectivement dans les zones rurales, à part en France, on a quand même des petites distances et essentiellement une population qui vit en métropole. Quelle est l'utilité pour un gamin de 14 ans d'avoir la voiture? Et dans les zones rurales, ou même, j'en vois certaines fois dans les banlieues chics, vous avez maintenant ces espèces de petits cubes horribles là, la petite voiture Citroën, ça s'appelle Ami, voilà, qu'on peut conduire sans permis. Ouais. Alors, faut avoir quand même papa et maman qui ont un bon compte en banque, parce que ça coûte une blinde.
Oui,
voilà.
10 000 euros.
Oui, mais t'as toujours des gens, bon, voilà. Tu peux les louer aussi, hein. Je crois que c'est 100 euros par mois pour la louer. Donc, je peux comprendre, par exemple, en zone rurale, pour aller jusqu'à ton bus, ou etc., d'avoir, ou un petit scooter, ou une petite amie. Enfin, de là à baisser. On n'est pas dans le Dakota, on n'est pas dans l'Iowa et on n'est pas dans les plaines canadiennes. Mais non, ça n'a aucun intérêt à part faire un peu d'argent pour les compagnies d'auto-école.
Disent,
donc qui a fait cette étude?
Non, mais ce que disent les responsables de cette étude, ils disent qu'aujourd'hui les ados sont utilisateurs de la route plutôt qu'avant parce qu'il y a les trottinettes,
il y a les deux roues, etc.
Et donc ils vont se payer.
Mais ils connaissent assez peu les règles et les dangers. Donc si ils commencent dès 14 ans à faire ce processus de conduite accompagnée, ils vont apprendre aussi des règles importantes.
Non, il y a le BSR en collège. Et autres. Oui, rigole. En troisième, on leur fait passer
oui,
déjà.
C'est pas un permis.
Ah non, c'est pas le permis, mais ils ont déjà quelques notions pour circuler en vélo et en trottinette.
Et l'autre argument, ils disent finalement, il n'y a pas une grande différence de maturation entre 14 et 15 ans. C'est assez marginal. Donc si c'est 15, pourquoi pas 14, Antoine Hirsch?
Moi, j'étais déjà surpris qu'on abaisse de 16 à 15 et qu'on abaisse encore à 14. Ça me paraît dangereux. Mais que pour l'apprentissage de la route, on fasse de la mobilette, etc. Moi, j'ai fait la mobilette, j'ai fait la formation. Ça s'appelait la SSR à l'époque. Et j'ai connu la route à vélo, à mobilette. Et donc, tu apprends la route. Je comprends pas bien l'argument de dire il va falloir leur mettre une voiture entre les mains pour qu'ils apprennent la route. Voilà. Attendons 15 ans, ça sera déjà bien. Et la conduite accompagnée, par contre, c'est super bien. Mais on peut attendre 15 ans.
Bruno Poncet. Qui a fait de la conduite accompagnée ici,
moi.
D'ailleurs?
Non, enfin, Antoine, moi.
Moi, mon époque, bon ça n'existait pas, je crois
non,
pas.
Ça n'existait pas pour mon époque. T'attendais 18 voilà. ans.
Mais jeune, vous êtes des boomers.
Ah, bah, ça, on est
et Antoine,
mais...
c'est le jeune de la bande.
Exactement. Oui, mais on n'a pas eu d'accident. T'as eu des accidents, toi?
Je dirais rien, Barbara. Bon, j'en ai eu quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns.
Oui, mais ça fait très longtemps que tu conduis aussi.
Oui, non, c'est sûr.
Puis, une ancienneté.
Ça fait 30 ans que je conduis mal, surtout. Non, mais moi, je sais pas, mais on a un vrai problème en France avec le permis, si tu regardes bien. On le donne de plus en plus tôt aux enfants. Aujourd'hui, tu vas avoir le permis à 17 ans.
Oui.
C'est pas 18 ans.
Madame Borne, c'est 17 ans maintenant.
17 ans. Donc bon, après, moi je pense que oui, effectivement, tu peux entre 17 et 18 ans. Mais le problème,
surtout
c'est
si,
que...
Surtout si c'est des voitures automatiques.
On n'a pas de suivi du permis. En fait, un gamin qui a le permis à 17 ans, il peut être aussi dangereux qu'un gamin à 18 ans, c'est pas le sujet. Mais des fois, à 17 ans, tes copains, t'es encore au lycée, tu peux vite un peu te former. Je connais un gamin, mais il y a eu un accident dans le patelin où vit mon pote. Un gamin de 17 ans, il a pris la voiture le soir ses parents, il s'est foutu dans un mur, il a tué deux personnes à côté de lui, hein, et deux gamines de son âge. Après, il y a un truc, c'est que vous peut-être me donner le permis à un gamin de 14 ans, 15 ans, même en conduite accompagnée, qui a un vieux de 75, 80.
Ah, ça, je suis bien d'accord.
Qui commence à être dangereux, pas les mêmes réflexes et tout.
Bien
à
d'accord.
14, 15 ans, quand même, qui est un peu plus tonique.
J'en connais un, et je peux vous dire, c'est un danger public, et on sait plus quoi faire.
Tu peux pas parler d'Alain Marchal quand il est pas là aussi.
Avec sa picanto.
Très
dangereux. Si vous croisez une picanto à toute allure à Nice,
surtout qu'il roule avec son teckel sur les genoux.
Les cheveux blancs gominés.
Avec et surtout le bras, comme
le
ça.
Bras, ouais.
Le bras plié sur la portière. Bah oui.
Et Lilou sur les genoux.
Et tu bronzes
avec le maillot de Nice.
Xavier est avec nous. Bonjour Xavier. Il est propriétaire de trois auto-écoles du côté de la Haute-Garonne à Revel. Bonjour Xavier.
Salut Olivier, salut les GG.
Alors vous qui êtes un professionnel, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de baisser la conduite accompagnée à 14 ans ?
Absolument pas, pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que déjà à la base, quand on avait baissé à 15 ans la conduite accompagnée, les élèves ne pouvaient pas passer le permis à 17 ans s'ils n'étaient pas issus de la filière de la conduite accompagnée. Or aujourd'hui, tous les élèves peuvent passer le permis dès l'âge de 17 ans. Et là, en baissant à 14 ans, ce que ça va faire mécaniquement, c'est qu'on va dire qu'ils peuvent commencer à passer le permis à 16 ans. Le souci, c'est que ça met davantage de personnes en situation de pouvoir passer l'examen. Sauf qu'en face, on n'a pas davantage d'inspecteurs. Donc le seul truc que ça fait, c'est que ça contracte les temps d'attente pour avoir une place d'examen. Et quand vous entendez là tout le temps que ça gueule à droite à gauche parce que les élèves ne peuvent pas passer le permis parce que les formations durent trois plombes, ben, mécaniquement, on nous y oblige. On nous met d'autant plus d'élèves à former, mais avec beaucoup moins d'inspecteurs pour passer l'épreuve. Donc ben, au bout d'un moment, mécaniquement, ça coince. Hein. Et autre point, c'est qu'à 14 ans, souvent, eh ben, notamment les garçons, la maturité n'est pas toujours géniale. Déjà, quand vous voyez que certains, vous leur faites passer le BSR pour être en scooter et les notions de danger, c'est chaud. Non, il y a des choses bien mieux à faire. Déjà, quand les élèves conducteurs veulent avoir l'AMI, ce qui serait bien, c'est de leur faire passer le code. Parce qu'aujourd'hui, vous passez juste le BSR pour le scooter et vous prenez une petite AMI, vous n'avez absolument pas le code de la route.
Exactement.
C'est un scandale. Vous voulez baisser le tarif des permis de conduire pour les élèves, c'est pas compliqué. Passez-nous en franchise de TVA, les prix mécaniquement on va les baisser de 20%, ça coûtera moins cher pour les gamins, mais sauf que comme on rapporte plus d'un demi-milliard de TVA par an à l'État, je vous garantis qu'ils vont pas le faire. Hein. Et après c'est nous qu'on accuse. Donc au bout d'un moment, mettez plutôt des mesures que nous on va préconiser pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien la formation et qu'il n'y ait pas de couler d'étranglement pour le passage de l'examen. Aujourd'hui, on libère les élèves en conduite accompagnée. On libère les élèves en conduite supervisée. Quand on fait les permis remorques, les petits, les B96, c'est nous aussi qui libérons. Je veux dire, si on veut qu'il y ait toujours un passage devant un examen, devant un inspecteur, j'ai aucun souci avec ça. Mais pendant la période probatoire, laisser les élèves conduire, parce que qui mieux que nous sait si l'élève il est prêt ou pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui perdent leurs moyens le jour de l'examen, faut pas se leurrer. Hein. Et derrière, après leur fin de période probatoire, pour avoir leur permis définitivement validé, là vous les passez devant un inspecteur et vous allez voir comment les taux de réussite ils vont monter bien plus haut, parce que comme vous l'avez dit, quand on a fait de la conduite déjà préalablement grâce à la conduite accompagnée, si on faisait la même chose pendant sa période probatoire, on passe devant l'inspecteur et 75% long du premier coup. Donc il y a des solutions, mais c'est des gens de terrain comme moi qu'il faut écouter et pas des... qui font des putains de d'enquêtes à deux balles là, et après je sais même pas à qui ils les font parce qu'ils m'ont pas sollicité en tout cas.
C'est clair. Xavier qui pousse un coup de gueule au passage. Merci Xavier d'avoir appelé au 32-16. Après moi ça me semble pas illogique de dire que plus un gamin est confronté aux règles de la conduite, le code de la route, des règles de sécurité, c'est une bonne chose. Et je pense que ça donne une maturité quand tu commences à faire de la conduite accompagnée avec tes parents. Antoine tu l'as fait.
Ouais,
je pense que t'es un meilleur conducteur que quand tu commences à 18 ans tout seul.
Ouais, 14 ans. Ouais. Pardon.
On est dingue. Déjà 14 ans.
À 14 ans.
Si vous les voyez, les élèves de 14 ans.
T'as pas la notion de danger que la voiture peut représenter. Mais
justement, tu peux
14 ans, c'est du 4e, 3e.
Bah oui, mais tu peux l'apprendre, justement.
Et, pardon, mais on dit mineur de moins de 15 ans, la majorité pénale, là. T'étais même pas responsable pénalement avant 15 ans. Et là, tu pourrais conduire. Waouh, ça me paraît.
Ça, c'est peut-être pour commencer à nous annoncer le droit de vote à 16 ans.
Imagine un peu, les filles, ça commence à te chatouiller à 14 ans. Tu prends la bagnole de tes parents,
pour
faire le
beau. Célim. Célim, il est pour. Il va avoir une minute pour nous convaincre. Célim, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone.
Ah, vous êtes gérant d'auto-école, vous aussi. Alors, voyez, tout le monde n'est pas d'accord dans la profession. Alors, Célim, je vous laisse une minute.
Allez, je suis totalement pour. Déjà, la première, c'est que le permis à 17 ans, ça a totalement cassé la conduite accompagnée. Il y a tous les gens qui étaient partis, tous les élèves qui étaient partis en conduite accompagnée, ils ont cassé leur formation. Et on le voit en termes d'accidentologie. Aujourd'hui, depuis le mois de, là, on est au mois de juillet, c'est en pleine hausse, les accidents de la route. Qu'à 14 ans, on met déjà des enfants sur des mobylettes, des voiturettes, des trottinettes tout seuls. C'est-à-dire que là, à 14 ans, quand on parle de conduite accompagnée, ils sont accompagnés avec quelqu'un d'expérimenté à côté.
Ouais,
plus on apprend les choses tôt, garde les bons réflexes, les bonnes autonomies. Et j'aimerais rajouter une chose, on oublie une chose, c'est qu'on autorise quand même à 16 ans le permis 125. Autorise déjà à 16 ans de mettre des gamins sur une autoroute, sur un deux roues.
Mais Célim, ça y est, vous avez eu une minute avec des arguments.
Oui, c'était déjà débile, 16 ans.
Bravo Célim. Allez, on va accueillir Estelle Denis pour la suite sur RMC, RMC Story. Salut Estelle, comment vas-tu? Je prends un micro, il fonctionne?
J'espère.
Mais non, je crois pas. Ah bon? Vas-y, prends le mien.
Bonjour à tous, nous allons continuer de débattre, bien sûr, dans Estelle Midi. On va parler du match France-Espagne, évidemment. Est-ce que vous êtes prêts à vibrer? Qu'avez-vous prévu pour ce soir? Vous allez tout nous dire. Est-ce que vous ressortez les vieux maillots de foot de vos placards? On vous attend, ça on en parlera vers 13h30. Avant, justement, parce qu'on parle de maillots, on va parler de t-shirts à message. Vous savez que c'est vraiment le phénomène. Tout le monde porte des t-shirts à message, comme par exemple Bruno Poncet.
Ça fait 35 ans que je suis à la mode, Estelle Denis. Hein,
oui,
je pense que ça
alors, tu sais, les t-shirts à message, c'est les cœurs à prendre, papa cool.
Oh là là, ma
je peux pas, j'ai apéro.
Oh,
ce genre de truc. Est-ce que vous trouvez ça cool, ces t-shirts à message?
C'est totalement ringard.
Non, mais est-ce que quand vous avez un premier rendez-vous Tinder, le monsieur vient avec un t-shirt métro boulot apéro, est-ce que vous trouvez ça
Il faut fuir.
Au moins, tu sais où tu vas.
Je range mon t-shirt.
Il avance à pas loin. Mais en tout cas, on en parlera à midi et demi. Et puis, les incendies qui continuent de ravager la forêt de Fontainebleau, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 9 incendies sur 10 qui est d'origine humaine et notamment à cause d'imprudence. Il y a un conducteur sur 5 qui jette encore son mégot par la fenêtre. Est-ce qu'il faut interdire la cigarette en voiture? C'est la question qu'on va vous poser dans un instant dans Estelle Midi.
Restez bien sur RMC, RMC Story. Bon après-midi à tous.